En effet, j'aime beaucoup marcher. Et j'aime bien utiliser tout le temps que j'ai pour occuper bien ce temps et en l'occurrence les 7 minutes à pied qui me séparent de la maison. Je fais des cours d'anglais, je lis un article, une vidéo de quelque chose sur YouTube. Enfin voilà, j'utilise le temps. Beaucoup comme ça. Donc, si un jour vous me croisez là, vous me verrez, mais moi je vous verrai pas parce que je serai certainement comme ça. Et c'est vrai que nous vivons dans une société surconnectée, avec des notifications qui nous arrivent de toutes parts, sur nos téléphones, les réseaux sociaux. Nous avons des agendas surbookés. Quelle place reste-t-il à Dieu dans tout cela? Non seulement quelle place, mais aussi quelle qualité à ces moments que nous mettons à part pour être avec Dieu dans notre quotidien. Dans cette effervescence, dans ce brouhaha de notifications, de stimuli qui nous viennent de toutes parts, est-ce que nous savons encore écouter la voix de Dieu? Nous allons continuer à marcher ce matin avec l'Ecclésiaste et nous poursuivons donc ce parcours dans ce livre de l'Ecclésiaste qui dresse un certain nombre de constats au sujet de tel ou tel domaine de l'activité humaine pour en venir à parler de la vanité, de la futilité qu'il y a à tenter de quitter la condition humaine qui est la nôtre, marquée par le péché et ses conséquences. Et je vous invite à lire dans Ecclésiaste, chapitre 4, les versets 17 jusqu'au chapitre 5, verset 6. Selon la traduction que vous avez, il est possible qu'il n'y ait pas de 4, 17, mais que la numérotation soit juste modifiée, ou bien c'est 4, 17 à 5, 6, ou bien c'est uniquement le chapitre 5, du coup les versets 1 à 7. Mais le texte est le même, c'est juste la numérotation qui change, donc ce n'est pas problématique. Voilà. Ah, quelqu'un de connecté. Il n'y a pas que moi. Hein. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice, à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, les rêves naissent de la multitude des occupations, et la voix de l'insensé se fait entendre par une multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, et ne dis pas aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Car là où il y a multitude de rêves et beaucoup de paroles, ce sont des vanités. C'est pourquoi crains Dieu. L'Ecclésiaste aborde la question de la piété. La piété. La consécration personnelle à Dieu. La dépendance de Dieu, l'attachement à Dieu en toutes circonstances, une obéissance à la volonté de Dieu, une obéissance qui dépasse les seules paroles, le simple « et moi ». La piété, c'est vivre d'une manière qui honore Dieu. Et tout cela, c'est bien. Le problème, c'est que la piété peut être détournée de sa juste finalité, de son objectif premier, lorsqu'elle est utilisée comme un moyen de tenter d'échapper de notre condition humaine. Et c'est précisément ce dont l'Ecclésiaste parle dans ce texte que nous allons méditer ce matin. On peut avoir en apparence tous les traits du bon croyant, du bon chrétien, et pourtant se comporter avec une certaine légèreté dans notre vie au quotidien, et même jusque dans notre manière de venir rendre un culte à Dieu. L'Ecclésiaste aborde la piété sous trois angles différents, les sacrifices, au verset 17, la prière, les versets 1 à 2 du chapitre 5, et les vœux, dans les versets 3 à 5, et puis une conclusion au verset 6. Premièrement, la piété sous l'angle des sacrifices, au verset 17. La télécommande, voilà, elle marche un peu difficilement ce matin. « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. » Alors, dans le contexte de l'époque, quand l'Ecclésiaste s'exprimait ici, on se rendait au sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire au temple, pour offrir des sacrifices à Dieu. Et on ne le faisait pas n'importe comment. Il y avait tout un code, tout un ensemble de lois que l'on trouve dans le livre de l'Exode, dans celui du Lévitique notamment. Il fallait respecter cela parce que ça donnait des informations sur la manière d'offrir le sacrifice, l'attitude de cœur avec laquelle on s'approchait pour offrir le sacrifice, etc. Et un Israélite pouvait se rendre au temple, offrir son sacrifice, pensant bien faire, mais il ne respectait pas telle ou telle règle et son sacrifice n'était pas agréé. Et on a tout un ensemble de tristes exemples dans l'Ancien Testament où des Israélites se sont comportés très à la légère. On peut penser à des personnes importantes comme les deux fils du grand prêtre Aaron, Nadab et Abihu, qui n'ont pas respecté les règles et qui ont péri devant l'autel. Lévitique chapitre 10, ou encore les fils du prêtre Élie en 1 Samuel chapitre 2. Ou encore on peut penser au roi Saül qui a offert des sacrifices à la place de Samuel. Lui en tant que roi, Saül n'avait pas à offrir de sacrifices et pourtant il l'a fait. On peut penser aussi au peuple, pas que aux personnes importantes, mais le peuple aussi est concerné. Le prophète Amos, et pas que lui, a reproché au peuple d'offrir des sacrifices sur des hauts lieux, alors que les hauts lieux, c'était des autels où on sacrifiait aux idoles, mais certainement pas à Dieu. Rendre un culte au Seigneur sans respecter les règles, ces règles que précisément Dieu avait établies, c'était offrir un sacrifice, comme dit l'Ecclésiaste ici, à la manière des insensés. Au verset 17. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Les sacrifices que nous offrons à Dieu aujourd'hui ne sont plus des animaux comme dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui et depuis que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, cette alliance que Jésus-Christ a instituée, les sacrifices prennent la forme de, on va dire, de sacrifices spirituels, le don de soi, la consécration à Dieu, les prières, l'adoration et point de suspension. Et le risque est réel de détourner la piété de son objectif premier là aussi. L'Ecclésiaste nous met en garde contre la tentation d'une adoration qui sera centrée non pas sur Dieu, mais sur l'être humain, sur nous-mêmes. Et il y a un écueil qui nous guette tous. L'écueil qui consiste à se focaliser davantage sur la forme que sur le fond, sur le contenu. De plus en plus dans les églises évangéliques, l'expérience émotionnelle est recherchée. On a tendance à mettre un accent sur une spiritualité qui va être basée sur les émotions, sur les sentiments. On veut susciter l'émotion dans l'auditoire. De plus en plus de chrétiens viennent à l'église avec l'idée de rencontrer Dieu, c'est bien, mais de rencontrer Dieu par le chant, Je veux que ça vibre en moi. Je veux sentir la présence de Dieu dans ces moments dits de louange. Un peu comme si c'était nos chants qui rendaient possible la présence de Dieu ou pas. J'ai même déjà entendu un discours que je trouve dramatique. Non mais, je cite, hein, des recueils comme « À toi la gloire » et « J'aime l'éternel », les premiers, c'est dépassé, on ne devrait plus chanter là-dedans. Il faut aller vers de la vraie louange, vers des chants modernes. Mais quel drame! Pourquoi faudrait-il abandonner des chants qui ont bien souvent un contenu théologique profond, bien ancré dans la parole de Dieu, au profit de chants qui assez souvent, je ne fais pas une généralité, mais assez souvent sont quand même pauvres en contenu, en apport théologique. Même un chant dont le contenu théologique est pauvre peut générer de l'émotion parce qu'il est mis en valeur par une musique entraînante, par de beaux effets sonores, par de très bons musiciens et choristes, par des enchaînements mélodieux, et puis parce qu'on le reprend et reprend et reprend. Et on va jusqu'à dire que c'est ça la louange, la véritable louange. Worship, comme disent nos amis anglo-saxons. Et ce que je dis d'un chant, ça vaut aussi pour d'autres aspects du culte. Par exemple, même le temps de l'enseignement, la prédication, peut être amenée de manière à susciter les émotions dans l'auditoire. On a tendance, là aussi, à se focaliser davantage sur la forme d'un enseignement que sur le fond, sur le contenu. Et c'est vrai que c'est tentant de se laisser toucher par un prédicateur qui, dans sa personnalité, va être charismatique. Il va bouger sur l'estrade, pour ne pas dire sur la scène. Il va mettre beaucoup d'intonation. Il va faire de l'humour. Il va parler avec un minimum de notes ou avec son téléphone portable, même pas de pupitre. Et on a tendance à se laisser attirer par ce côté charismatique, limite fascinant. Et beaucoup de prédicateurs jouent là-dessus pour susciter l'émoi dans leur auditoire. C'est exactement ce que Paul pointe du doigt dans ses lettres aux Corinthiens, où il fait des reproches à ceux qui se focalisent davantage sur la belle éloquence à défaut de la saine doctrine. Je ne suis pas en train de dire que tous les prédicateurs avec un tempérament charismatique enseignent des erreurs. Je ne dis pas ça non plus. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut se contenter de la médiocrité dans la forme. Bien au contraire. Notre Dieu est parfait et nous sommes invités à lui offrir le meilleur de nous-mêmes, jusque dans la forme. Ceci étant, ce qui prime, c'est le fond, c'est le contenu, c'est le message de l'Évangile. Cet écueil qui consiste à se focaliser davantage sur la forme que sur le fond amène à une adoration qui est centrée sur nous-mêmes et non pas centrée sur la personne de Dieu. Je cite Sylvain Romerovski dans son commentaire sur le livre de l'Ecclésiaste. La télécommande a du mal ce matin. Elle ne veut pas marcher. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Nous n'offrons plus de sacrifices. Merci beaucoup. Ah bah oui, c'est normal que ça ne marche pas. Merci beaucoup, Alexis. Nous n'offrons plus de sacrifices de nos jours. Pourtant, il demeure possible de rendre à Dieu le culte des insensés. Le culte peut, par exemple, s'orienter principalement vers le plaisir de l'homme. Il en est ainsi lorsque la conduite du culte privilégie la création d'une atmosphère de nature à exacerber certains sentiments, à susciter certaines émotions. Sous couvert d'adoration, le bien-être des participants, voire leur divertissement, tend à devenir le but au détriment de l'écoute de la parole de Dieu. Dieu et son culte sont instrumentalisés pour créer des happenings où l'on se sent bien. Ainsi, la piété peut se réduire à un événement destiné à assouvir sa soif d'expérience spirituelle davantage qu'à rendre un culte à Dieu selon sa volonté. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste, dans ce verset 17, pointe du doigt ce qui est vraiment important. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. L'adoration de Dieu, le culte que nous rendons à Dieu, commence par l'écoute de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Ne pensons pas que parce que nous sommes des chrétiens protestants, évangéliques, avec tout l'héritage du XVIe siècle et la réforme protestante, ne pensons pas que nous sommes à l'abri d'une piété qui peut perdre de son authenticité. On est invité à se poser la question, comment est-ce que nous nous approchons de Dieu ? Est-ce que nous savons encore écouter Dieu ? L'écouter quand il nous parle dans sa parole, hein, je ne vous parle pas de l'écouter, le Seigneur m'a dit que. Je parle d'écouter Dieu dans sa parole. Dans quel état d'esprit venons-nous au culte le dimanche ? Avec quelle motivation ? Avec quelle attitude de cœur ? Pourquoi êtes-vous là ce matin ? Pourquoi vous êtes-vous connecté sur Zoom ce matin ? Je vous pose la question sous un angle différent. Si un jour vous êtes amené à déménager, comment va se faire votre choix pour l'Église ? Surtout si vous êtes amené à vivre dans une ville, une région ou un département, voilà, où il y a beaucoup d'églises et donc il y a du choix. Dans votre choix, quelle place aura le bâtiment ? Ouais, il est magnifique ce bâtiment. Ils ont même la clim. Dans le Gard, il faut la clim. Pas forcément. Quelle place pour le bâtiment ? Quelle place aura la, je mets des guillemets, la louange ? Quelle place pour le contenu des chants dans votre choix d'une église ? Est-ce que ce sera une église où on va lire la Bible et où les chants vont prendre appui sur la parole de Dieu ? Quelle place pour la prédication ? Est-ce que ce sera une église où la prédication fera de temps en autre référence à la Bible ? Parce que ça existe des prédications. De temps en temps, il y a un verset qui sort. Est-ce qu'on appelle ça encore une prédication ? Ou bien une église où l'on va prêcher la Bible en laissant le texte biblique guider le message, guider le propos de la personne qui prêche. Dans le choix d'une église, quelle place tiendra la parole de Dieu ? Dans l'ensemble du culte, mais aussi dans l'ensemble de la vie de l'église, pas seulement le dimanche, mais la semaine, les études bibliques, les réunions de prière. Veille bien sur tes pas. Lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. L'Ecclésiaste nous invite à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter la Bible, parce que c'est là que Dieu se révèle. Et une précision importante. Dans la Bible, l'écoute implique l'obéissance. Écoutons Dieu et obéissons à Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est toujours celui de l'obéissance à sa parole. Je cite un texte dans 1 Samuel, chapitre 15. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive, littéralement prêter attention, vaut mieux que la graisse des béliers. On voit la connexion ici entre l'obéissance et l'écoute, l'écoute et l'obéissance. Écouter Dieu dans le but de lui obéir. L'écoute de Dieu doit être au centre de notre vie. Et c'est Jésus qui le dit, « Si l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cela signifie qu'il n'y a pas d'activité plus importante que de se placer à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole, la Bible. » Quelle place pour l'écoute de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous passez du temps avec Dieu et sa parole chaque jour? J'entends régulièrement des personnes dire « J'aimerais passer plus de temps avec Dieu, à lire la Bible, à prier. » Et derrière, je constate que c'est rarement suivi des faits. Et peut-être c'est votre cas ce matin, mais que pourriez-vous faire pour que l'écoute de Dieu devienne prioritaire dans votre vie? Puisque vous avez envie de lire plus la Bible, mais que vos journées ne pourront pas faire 27 heures, ils en feront toujours que 24, peut-être qu'il y a des choses à éliminer ou à faire en moindre mesure au profit de temps pour la lecture de la Bible. Deuxième, la piété sous l'angle de la prière. Au chapitre 5, les versets 1 à 2, je relis le texte pour qu'on l'ait bien en mémoire. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, les rêves naissent de la multitude des occupations. » Et la voix de l'insensé se fait entendre par une multitude de paroles. La piété sous l'angle de notre vie de prière. L'Ecclésiaste nous exhorte ici à faire attention à nos paroles quand nous prions. En réfléchissant à nos paroles dans la prière, à ce qu'on dit concrètement, en particulier dans le verset 1, mais aussi à nous garder de multiplier des paroles inutilement, dans le verset 2. Donc, quand nous prions, réfléchissons à nos paroles. Peut-être ça vous est déjà arrivé de répondre à un appel pendant un culte, à la fin d'une prédication, peut-être était-ce à la suite d'un chant de consécration à Dieu, ou un chant où vous avez renouvelé votre désir de suivre Jésus, de l'aimer, de le servir. Vous avez pris dans la prière ce jour-là un engagement. Je veux te suivre, Seigneur. Vous avez peut-être même répété la prière de la personne qui prêchait, qui vous invitait à formuler cette prière. Je pointe du doigt ici que parfois, sous l'effet d'une émotion, on en a parlé au verset 17, ou même simplement sous l'effet d'une très bonne prédication de la parole de Dieu, on peut être amené à prendre dans la prière un engagement, une résolution, une décision. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais attention. Attention à ces paroles qu'on prononce, à ces engagements qu'on peut prendre. Car les paroles, elles sortent facilement sur le moment, l'effet de quelque chose qui nous a percuté, qui nous a fait du bien, qui a peut-être suscité l'émotion en nous. Mais ce n'est jamais l'émotion qui nous permettra de tenir notre engagement lorsqu'il faudra être cohérent dans notre attitude ensuite. Quand nous prions, réfléchissons à nos paroles et ne multiplions pas les paroles inutilement. Beaucoup de paroles peut parfois traduire une tentative de fuir ou de rejeter la réalité. Il vaut mieux peu de mots, bien réfléchis plutôt qu'un flot de paroles. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit aussi dans le Sermon sur la montagne en Matthieu 6. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas. Car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Et puis juste après, dans ce chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, Jésus enseigne la prière du Notre Père, qu'il commence de la manière suivante. notre Père qui est aux cieux. Et l'Ecclésiaste aussi fait référence au fait que Dieu est aux cieux et nous, nous sommes sur la terre. Et ça évoque deux choses. Premièrement, ça évoque la transcendance de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler. On ne peut pas le contraindre à accéder à nos requêtes. La prière n'est en aucun cas un moyen de faire pression sur Dieu, de telle sorte qu'on chercherait à faire entrer Dieu dans nos plans. Et parfois, nos prières, elles ressemblent un peu à ça. Hein. Je force pas le trait. Hein. « Seigneur, nous te prions de faire ceci. Nous te prions que tu agisses là. » Et d'ailleurs, on va même te dire comment tu dois agir. Il faut que tu fasses ça. Nous te prions que tu fasses ça ici, maintenant, à telle heure. Qui sommes-nous pour dire au Dieu souverain comment il doit s'y prendre? La prière devrait au contraire nous aider à entrer dans les plans que Dieu a pour nous. C'est complètement différent. La prière nous aide à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et Jésus nous a laissé un exemple de prière, d'une prière soumise à la volonté de Dieu quand il est dans le jardin de Gethsémané et qu'il dit à Dieu « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Notre prière exprime la dépendance à l'égard de Dieu. Notre volonté de le voir agir, mais de le voir agir comme lui voudra agir. Et dans le temps dans lequel il agira. Deuxièmement, par le rappel que nous sommes sur la terre et que lui est au ciel, lui l'Éternel, l'Ecclésiaste nous rappelle que l'expérience de la vanité, l'expérience de cette condition humaine reste incontournable. Et même la prière ne nous permettra pas de nous extirper de cette condition humaine. Dans sa volonté et dans sa grâce, Dieu peut nous soulager de tel ou tel mot. Il peut même nous délivrer totalement de quelque chose, d'une maladie, d'une épreuve. Mais il n'empêche que notre condition humaine sera toujours présente dans la vie présente. Elle sera toujours là. Réfléchissons aux motivations qui nous poussent à prier. Est-ce que nous prions pour que Dieu nous épargne les épreuves de notre condition humaine et qu'il accède à toutes nos demandes? Si c'est le cas, peut-être que sans même le vouloir ou sans en prendre conscience, nous détournons la piété de son objectif premier. Ou bien est-ce que nous prions pour demander à Dieu qu'il nous fasse la grâce de vivre cette condition humaine marqué par le péché et ses conséquences. La grâce de vivre la vie telle qu'elle est, dans la confiance en lui et avec l'assurance de sa présence à lui. Troisièmement, la piété sous l'angle des vœux. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas au représentant de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Dans l'Ancien Testament, on faisait régulièrement des vœux. Et d'ailleurs, la loi de Moïse contient un certain nombre de recommandations qui encadrent la pratique des vœux. Vous pourrez regarder dans Deutéronome 23, versets 22 à 24, par exemple. On faisait des vœux dans différentes circonstances. Quand on voulait offrir un sacrifice à Dieu, on pouvait l'accompagner d'un vœu. Ou encore, on faisait le vœu de consacrer quelque chose ou quelqu'un à Dieu. On pouvait même se consacrer soi-même à Dieu, ce que la loi de Moïse appelle le vœu de Naziréa, en Nombre chapitre 6. On voit également à plusieurs reprises des vœux accompagnés d'une requête. On promettait à Dieu quelque chose s'il exauçait notre prière. Jonas, par exemple, qui fait le vœu d'offrir un sacrifice à Dieu si Dieu le sauve de la noyade, en Jonas chapitre 2, etc. Mais tout comme les sacrifices, et tout comme pour les prières dont on vient de parler, les vœux pouvaient aussi être déviés de leur sens premier, de leur objectif premier. On pouvait prononcer des vœux de manière irréfléchie, de manière inconsidérée, des vœux qu'on ne pouvait tout simplement pas tenir ou honorer. Et on a un triste exemple avec Jephté, dans le livre des Juges au chapitre 11, qui a fait un vœu totalement irréfléchi, et ça lui a valu de sacrifier sa propre fille. La Bible met en garde, Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Deux mises en garde ici, pour ces versets 3 à 5. Première mise en garde, attention à nos engagements. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure aussi, au moment des prières. Attention aux vœux que nous prononçons, parce que les paroles sortent facilement. Tenir notre parole, c'est plus difficile. Verset 3, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis le vœu que tu as fait. » Nous sommes tenus par notre parole, par le vœu que nous avons adressé à Dieu. C'est difficile de se représenter ça pour nous aujourd'hui, alors que ça veut presque plus rien dire dans notre société. Je te donne ma parole. On dit quelque chose un jour et on dit l'inverse le lendemain. Et la génération qui monte là, elle est très forte pour ça. Mais avec Dieu, on ne plaisante pas. Et Dieu n'aime pas notre inconstance. Comme le dit le verset 5, si nous faisons un vœu précipitamment sans avoir calculé le prix de ce que ça allait coûter, eh bien on ne peut pas dire « Ah, mais je ne voulais pas dire ça, en fait c'est une erreur, on cherche à se donner des excuses, etc. » pour ne pas accomplir notre vœu. On regrette « Ah, j'avais pas mesuré tout ce que ça impliquait. » Mieux vaut pour toi, verset 4. Ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Deuxième mise en garde, attention de ne pas forcer la main de Dieu. Si Dieu répond à telle ou telle prière, si Dieu me guérit de telle maladie qui me taraude depuis tant d'années, si Dieu nous donne cet enfant que nous voulons tant, si Dieu, point de suspension, alors je ferai ça pour Dieu. Alors je me consacrerai davantage à lui. On a des exemples dans la Bible de personnes qui ont vraiment respecté Anne et Samuel, par exemple. Puis d'autres cas où c'était plus compliqué. On ne marchande pas avec Dieu. Et parfois, nous formulons un vœu à Dieu parce que nous n'acceptons pas notre condition humaine et nous voudrions que Dieu nous épargne telle souffrance. On peut penser à l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 12, qui a prié pour que Dieu lui ôte cette écharde qu'il avait dans la chair. Et l'apôtre Paul a prié. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul s'est plié, il s'est résolu à la volonté de Dieu. Tout comme pour la prière, on ne doit pas tenter de forcer la main de Dieu. Parce que ça vaut aussi pour nos vœux qui peuvent être détournés de leur objectif premier. Avec le verset 6, l'Ecclésiaste donne sa conclusion à ce passage. Car là où il y a multitude de rêves et beaucoup de paroles, ce sont des vanités. C'est pourquoi crains Dieu. Alors sur la question des rêves, Il y a bien des choses à dire et j'aborderai ce point en étude biblique mercredi soir et le jeudi après-midi. On va s'intéresser plus spécifiquement ici à la conclusion avec « C'est pourquoi crains Dieu ». La crainte de Dieu, ce sera d'ailleurs la conclusion de tout le livre de l'Ecclésiaste. Chapitre 12, verset 13, le dernier verset. « Voilà la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. » La crainte associée à l'obéissance, ça, on retrouve aussi cette écoute qui se traduit dans l'obéissance dont on a parlé tout à l'heure. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect, cette déférence à l'égard de Dieu, cette reconnaissance de la seigneurie de Dieu. C'est la soumission à sa volonté souveraine, l'obéissance à sa loi. Et par voie de conséquence, cela débouche sur la foi en Dieu, l'amour de Dieu, l'écoute, l'attention portée à sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse un exemple parfait dans chacun des trois domaines, de ces trois domaines de la piété qu'on a parcouru ce matin. On voit que les évangiles relatent que Jésus était à l'écoute de Dieu, de cette écoute qui se traduit par une mise en pratique de la parole de Dieu. Et Jésus prenait du temps pour prier Dieu son Père. On le voit régulièrement dans les évangiles, se mettre à l'écart de ses disciples et des foules pour prier du début à la fin de son ministère. Jésus-Christ est celui aussi qui, au sein de la prière, a entretenu parfaitement, a nourri sa relation avec Dieu par des prières pesées, loin du flot de paroles. Et ces prières étaient la conséquence d'une confiance, d'un abandon total à Dieu son Père. On a cité tout à l'heure l'épisode dans le jardin de Gethsémané. Et puis Jésus-Christ est aussi celui dont la parole a toujours été « oui, oui, non, non ». Ses paroles et ses promesses sont fiables, car Jésus est fidèle et il est tout puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Et dans tout cela, Jésus-Christ est celui qui est venu vivre dans notre condition humaine sans pourtant commettre le péché. Il est allé jusqu'au bout de ce pourquoi le Père l'avait envoyé. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et il nous laisse un exemple de piété vécue dans la crainte de Dieu, dans ce profond respect de Dieu son Père. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre aussi nous-mêmes. La crainte de Dieu est en quelque sorte l'antidote à une piété qui serait détournée de sa finalité. La crainte de Dieu, telle que je viens de la définir, nous fait finalement rester à notre place. Ça nous évite de chercher à fuir notre condition misérable sur la terre. Au contraire, la piété vécue dans la crainte de Dieu nous aide à assumer notre condition humaine. Dans la crainte de Dieu, dans la confiance en Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Finalement, la crainte de Dieu nous permet de vivre la vie telle qu'elle est, avec son lot de joie, et il y en a, mais aussi avec son lot de souffrance. La vivre telle qu'elle est, cette vie, la vivre avec Dieu, la vivre pour Dieu.